des livres plein les oreilles. Bonjour mes amis, Clotilde au micro, Clotilde Soye au micro de Canal M, et j'allais dire à votre service, oui, parce que c'est vrai que c'est aussi complètement et totalement à votre service, à l'émission des livres plein les oreilles, qui ordinairement vous fait beaucoup de la publicité, j'aime pas trop le mot, la promotion non plus, mais en tout cas, on vous parle beaucoup des livres nouveaux qui sont maintenant disponibles via le SQLA et le CAEB maintenant. Mais aujourd'hui, ce sera un petit peu spécial. Aujourd'hui, on va beaucoup parler de littérature jeunesse et du bien que ça peut faire à nos jeunes de profiter de livres audio. Alors, mes invités aujourd'hui, Bernard Tremblay, qui est déjà en ligne, je vais m'adresser à lui dans quelques secondes. Lucie Robida, que vous connaissez peut-être de nom, mais peut-être pas, qui est déjà là aussi en studio. Bonjour Lucie.
Bonjour Clotilde.
Lucie qui veille sur tous ces livres qui sont enregistrés, qui veille jalousement avec soin sur la qualité de ces livres-là, de ceux dont vous pouvez disposer absolument gratuitement via le SQLA. Et puis aujourd'hui, c'est le grand retour de l'ami Gérard Saint-Denis. Oui, j'entends dans les chaumières. Oui. Eh bien oui, Gérard Saint-Denis qui sera là avec nous en seconde partie de cette émission des livres plein les oreilles. Tout de suite, on va se tourner vers Bernard Tremblay. Bernard, on vous a fait retomber en enfance?
Ah, tout à fait. Mais aussi bien dans la mienne que dans celle de mon fils.
Ah!
J'ai un de mes bonheurs dans la vie, c'est d'être le papa d'un beau grand jeune homme aujourd'hui.
Ah ouais?
Mais garçon à qui j'ai pu faire la lecture pendant quelques années.
OK, avant malheureusement que les problèmes visuels ne vous frappent assez gravement.
Ah ben moi j'étais un grand myope, j'ai même eu le bonheur d'avoir des cataractes très tôt. Mais quand j'ai pu m'en débarrasser et me remettre à la lecture, mm-hmm. ça a été génial.
Oui.
Mais les moments de bonheur partagés avec mon fils, quand on avait hâte tous les deux d'arriver au moment de la lecture avant le dodo.
Oui. Mais, mais c'est un rituel, j'ai l'impression, qui se perd peut-être chez les jeunes couples. Pas tous. Mais on va d'ailleurs découvrir tout au long de cette émission, Bernard, à quel point le livre audio, le livre lu, donc tel qu'on le reçoit dans nos oreilles, qu'on soit en situation de déficience visuelle ou pas d'ailleurs, c'est une richesse infinie.
Oui, c'est le contact, c'est le partage.
Exactement. Alors donc, je vous disais, on vous a peut-être fait retourner en enfance parce que je vous ai demandé, à vous d'ailleurs, comme à Gérard Saint-Denis, de nous présenter un ou plusieurs livres jeunesse ou adolescents qui vous auraient marqué. Et vous nous arrivez avec quoi, Bernard?
Ah, ben, moi, quand on m'a dit que ce serait littérature jeunesse, je me suis mis à réfléchir, et qu'est-ce qu'on avait bien aimé tous les deux, parmi plusieurs.
Okay.
Et là, je me suis rappelé de Jean-Baptiste Coureur des bois.
Oui.
Un roman jeunesse de Francis Bach, qu'on avait lu tous les deux, mais avec plaisir. Et vous avez peut-être remarqué dans mes dernières interventions que j'aime bien le côté histoire et Nouvelle-France.
Oui, absolument.
Comme par hasard, j'ai repris l'aviron et on se retrouve avec les Coureurs des bois. Un beau roman historique que je viens d'ailleurs de relire, parce qu'il est bien sûr en format adapté.
Oui.
Et depuis quelques années, j'ai parcouru beaucoup d'autres ouvrages historiques.
Mm-hmm.
Et je dois dire que je n'ai remarqué aucune erreur. Donc, tout ce qui est dans ce roman est précis, est exact.
Mm-hmm.
Et il y a juste les éléments d'information qu'il faut quand on apprend, on découvre un terme ou un lieu.
OK.
Et ça se laisse couler.
Excusez-moi de vous interrompre, il y a des illustrations dans ce livre-là.
Malheureusement, dans le livre adapté, on dit qu'il y a des illustrations, mais
elles ne sont pas décrites. Parce que je pense que c'est M. Bach, d'ailleurs Francis Bach,
oui,
qui avait signé les illustrations.
Oui.
Et pour rendre à César ce qui appartient à César, c'est Robert David qui avait écrit le texte. Est-ce que c'est fidèle à vos souvenirs?
J'ai vérifié dans la notice de la Grande Bibliothèque, ça semble être les deux pour le texte.
D'accord, parfait, parfait. Parce que moi-même, je n'étais pas tellement sûre, alors je suis contente que vous nous rassuriez là-dessus. Alors donc, coureur des bois, fameux Jean-Baptiste.
Ce jeune garçon, devrais-je dire, Jean-Baptiste Détourneau, fils de cultivateur, qui en a assez d'avoir les yeux rivés au sol, il a dit « je suis pas fait pour planter des choux toute ma vie », et qui, dans les amis de son père, il y a Grand Baptiste, qui lui est un voyageur, un coureur des bois, et qui s'est dit « un jour, moi aussi, je vais faire la même chose ». Malheureusement, il se retrouve comme apprenti chez un cordonnier, et c'est bien difficile pour lui. Même si là, c'est en ville, c'est loin de la campagne, mais ça lui permet de voir un peu qu'est-ce qui se passe, comment ça marche, tout ça. Et finalement, il aura la chance de partir, même s'il est un peu jeune pour cette belle aventure.
Il a quel âge à peu près quand il
part? Il a, je dirais, 11 ou 12 ans au début.
Oui, d'accord, c'est de la préadolescence.
Oui. Mais il faut dire qu'à l'époque, la vie était plus... on était beaucoup plus à l'extérieur et nos corps s'étaient adaptés un peu plus. On n'était pas aussi douillets que nous le sommes.
Ah bon? On peut vraiment s'habituer à ça, dit la fille après 30 ans. je vous crois aisément.
Et alors là, c'est l'embarquement, la grande aventure, donc partir de Sainte-Anne-de-Bellevue. Donc, le grand départ avec les canots d'écorce.
Oui, parce qu'on peut pas, quand on part de Sainte-Anne-de-Bellevue, on part forcément en bateau. Hein?
Et oui, à l'époque, il n'y a pas de bateau à moteur. Tout est à bras,
ça, c'est
à l'aviron.
Ça,
et les canots ont 30 pieds de longueur, quoi, 4 mètres 50, facilement. Oui. Et ils transportent une ou deux tonnes de marchandises, en plus des six hommes qui vont faire avancer tout ça. Et là, ils vont remonter, traverser le lac des Deux-Montagnes, la rivière des Outaouais, et ils vont se rendre jusque dans les Grands Lacs, jusqu'au lac Huron, jusqu'à Michilimackinac.
Oh mon Dieu, vous l'avez dit comme ça, sans coup férir du premier coup, bravo.
Ah, ça, j'ai eu le plaisir de l'entendre souvent dans mes lectures depuis quelques années. C'était un petit fort, mais surtout un poste de traite. Mais rendu là, c'est que nous, on ne se rend pas compte. C'est ça, les pays d'en haut, dans les chansons. C'est l'aviron qui nous mène.
Oui. Bon.
Mais tout ça se faisait sur l'eau, bien sûr, mais aussi parfois à pied dans les portages, quand il y a des chutes ou des rapides. Et là, il faut tout transporter. Donc, c'est le travail. Mais c'est aussi la nature complète, pure, où il y a très peu d'êtres humains, mais beaucoup d'animaux. Et il y a le ciel aussi, l'ouverture. Quand l'horizon... Nous, en ville, on ne connaît plus ça, mais quand on est dans la nature, l'horizon qui est plus vaste que le regard que l'on peut y porter.
Oui. Et les aurores boréales, peut-être?
Ça, c'est un petit peu au sud pour ça.
C'est au sud?
Les aurores sont un peu plus au nord.
Mais
ensuite, c'est le contact aussi avec, évidemment, des hommes aguerris qui ont fait ça plusieurs fois, mais aussi avec les Amérindiens de plusieurs nations, plusieurs langues.
Mais
aussi les échanges et les contacts. Bien sûr, il y a une petite demoiselle amérindienne qu'il va rencontrer va lui donner un sérieux coup de main.
En tout cas, elle va lui donner un coup de main, elle va lui donner beaucoup d'affection, sûrement aussi.
disons qu'à la fin du roman, il a peut-être 13 ans.
C'est vrai, il ne faut pas que j'oublie qu'il a juste 11-12 ans quand même, Clotilde.
Mais il aura d'autres aventures. Il aura beaucoup grandi, beaucoup voyagé.
Oui, c'est certain.
Il y aura un voyage physique extérieur, mais aussi un voyage intérieur.
Et dites-moi, Bernard, parce que quand vous avez eu cette idée de nous parler de Jean-Baptiste, coureur des bois... Évidemment, moi, vous savez, je fais toujours un petit peu de recherche sur ces livres-là. D'ailleurs, je n'ai pas trouvé beaucoup de choses. Une chance que vous nous en parlez fort bien. Et je suis forcément retombée sur Les coureurs des bois, l'essai de feu Georges Hébert Germain, la saga des Indiens blancs. Vous aviez dû lire ça, vous aussi.
Oui, je l'ai lu avec beaucoup de plaisir.
Parce que c'était drôlement documenté aussi,
ça. Oui, oui, oui.
C'était très bel fantastique.
Donc je recommande la lecture.
Il y avait un petit mot, si je peux me permettre, parce qu'il nous reste un petit peu de temps, qui était signé Georges Hébert-Germain d'ailleurs, qui écrivait en préambule, si on veut. Hein. Il fallait être bien jeune, brave et ambitieux, j'en reviens à votre Jean-Baptiste, sans doute un peu inconscient pour partir vivre tout seul chez les sauvages, hein, c'est bien comme ça qu'on les appelait. Ces jeunes aventuriers ont été les premiers Européens à entrer pour de bon au cœur de l'Amérique, à connaître sa vraie nature, à aimer ses peuples au point parfois de se laisser assimiler par eux, de basculer corps et âme dans le monde sauvage et de n'en jamais revenir. C'est très très long et c'est très très beau. Alors je ne vais pas prendre trop de
vous
temps.
Vous savez comment on appelait ces hommes qui abandonnaient la vie occidentale?
Les Indiens blancs, non?
Les Indiens blancs, plus que ça, les hommes libres.
Ah oui, les hommes libres.
Oui, détachés de toute règle. Oui. De toute...
Paraît qu'il y en a encore. Paraît qu'il y en a encore.
Oui, oui.
Bon, OK, ils boivent du coke et tout ça, mais enfin, il paraît qu'il y en a... C'est la première fois que vous entendez ça, Lucie?
Qu'il y en aurait encore, oui.
Bon, ben non, mais je ne vous dis pas qu'ils font la traite de la fourrure et tout ça, mais moi, je suis sûre qu'il y a des gens, de la même façon qu'il y a des ermites un petit peu partout qui vivent Moi, j'ai l'impression qu'il y en a qui vivent encore au milieu des ours et autres. Il coule des ours heureux.
Des ours heureux.
Alors, écoutez, mon ami, pour faire une petite transition entre vous et Lucie Robida, qui est mon invitée dans quelques secondes. Je suis désolée, on n'aura pas le temps d'évoquer les livres de Madame Robitaille. Mais vous savez quoi? Vous allez revenir très vite pour nous en parler.
Ah, d'accord.
D'accord? Oui. Alors, tenez, j'ai un petit souvenir pour vous faire plaisir, et je vous souhaite une excellente journée. Et restez un petit peu à l'écoute, ne serait-ce que pour ce petit souvenir-là. D'accord?
D'accord.
Je vous embrasse, Bernard.
Moi revenant de la jolie Rochelle, j'ai rencontré trois jolies demoiselles. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut. C'est l'aviron qui nous mène, c'est l'aviron qui nous mène en haut.
Êtes-vous encore là, Bernard?
Eh oui.
Chantez-vous? Oh, c'est vous, ça.
Oui. J'ai point choisi, mais j'ai pris la plus belle. J'ai pris mon nez derrière moi sur ma selle.
Allez, à vous.
C'est l'aviron qui nous mène.
C'est l'aviron qui nous mène
en haut. C'est l'aviron qui nous mène. C'est l'aviron qui nous mène en haut.
Bernard, vous êtes fantastique. Toujours, toujours prêt à me suivre au milieu de toutes mes folies, comme ça, à cette émission des Livres Pleins les Oreilles. On vous aime beaucoup et on espère vous réentendre le plus vite possible pour nous parler notamment des livres de Madame Robitaille. René, c'est bien ça?
Entre autres.
Entre autres. Merci beaucoup.
Je vous en prie.
Prenez soin de vous.
Vous aussi.
Au revoir.
Au revoir.
Ce qui nous amène tout naturellement à parler de livres pour les jeunes et à parler avec Lucie Robida. Bonjour Lucie.
Bonjour Clotilde.
Je suis contente que vous soyez dans mon studio.
Je vous remercie de m'avoir invitée. Je suis très heureuse d'être là parce que le livre jeunesse est un livre qui malheureusement n'est pas assez diffusé. Et c'est une belle occasion de faire connaître ce qui existe déjà.
Exactement.
Et ce que les jeunes auraient besoin d'avoir aussi.
Absolument. Juste avant, je voudrais que vous nous rappeliez qui vous êtes ici chez Vues et Voix.
Je suis directrice de la production sonore. Ça veut dire que je m'occupe du studio. On l'appelle le studio. Mm-hmm. C'est là où on fabrique les livres audio adaptés pour l'ensemble des usagers. Nous faisons 700 livres par année, environ, parfois plus, parfois, surtout.
C'est une moyenne.
Et nous faisons ces livres pour le Service québécois du livre adapté. Nous avons une équipe de 375 bénévoles qui, chaque semaine, viennent prêter leur voix et leur talent aux auditeurs qui souhaitent emprunter des livres adaptés pour leur plaisir et pour leur formation aussi.
C'est, ce qui est fantastique, c'est que c'est ça. En plus, non seulement il y a les lecteurs, mais il y a les gens simplement qui sont là pour le temps, pour accompagner le lecteur, pour être sûr qu'il ne va pas répéter deux fois la même chose, etc., qu'on appelle les moniteurs.
Les moniteurs. Et les moniteurs, ils sont extrêmement importants parce qu'on se rend compte, on a fait des projets pilotes, on se rend compte que la lecture en autonome, c'est bien, mais ça occasionne parfois des difficultés, répétitions, mauvaises coupures. Alors, le rôle du moniteur est extrêmement important pour réduire ce genre d'erreurs ou de répétitions, ou de changements de mots aussi. Quand on change un mot, on peut changer le sens. Et si on change un sens, on change complètement l'expérience de lecture. Alors, notre rôle à nous est de rendre le livre avec ses bénévoles au mieux pour une expérience de lecture qui soit maximale.
Et ne croyez pas, vous qui nous écoutez, qui en profitez de ces livres-là, que ce sont des mauvais lecteurs qui font des erreurs. Ça n'a rien à voir. Il n'y a qu'à un moment donné, quand vous lisez pendant 2h30, ce qui est le cas, au cours d'une séance, forcément, automatiquement, à un moment donné, l'œil va faire des erreurs. C'est pour ça que le moniteur...
Oui, et surtout, c'est une lecture à vue.
À vue.
Les gens n'ont pas, les moniteurs non plus que les lecteurs ne peuvent se préparer. Ça veut dire qu'ils arrivent, ils sont tout frais et ils doivent lire environ 40-50 pages. C'est un défi et c'est pas tout le monde. Même les gens qui sont du métier peuvent éprouver des difficultés à lire par anticipation. Ça veut dire rendre une émotion... tout en repérant déjà le sens qui s'en vient. Alors, c'est un beau défi et c'est vraiment quelque chose qui demande des particularités et beaucoup d'humilité en même temps.
Et Lucie, vous avez accepté de venir aujourd'hui participer à cette émission spéciale jeunesse, parce que c'est vrai que nous faisons ces livres-là, a priori, pour les gens qui souffrent de déficiences visuelles ou de certaines déficiences physiques. Mais on parle rarement des jeunes, qui peut-être d'ailleurs souffrent même d'une forme de cécité ou de maladie, mais aussi des jeunes qui ont des difficultés à apprendre. Et on s'aperçoit de plus en plus, je pense que c'est par là qu'on va aller, que le livre audio permet parfois à ces jeunes-là, comme par exemple, je pense à ce Thierry dont vous m'avez déjà parlé.
À qui d'ailleurs j'ai parlé hier en soirée. Il aurait bien aimé être avec nous aujourd'hui pour témoigner de son usage et du bienfait de l'usage du livre audio dans ses apprentissages. Thierry est un jeune qui va dans une école régulière et qui doit faire un programme de lecture, donc 4 à 5 livres par année. Pour l'aider dans cette tâche, le livre audio vient en appui parce que Thierry est dyslexique et dysorthographique. Et cette situation-là est une situation ou un problème neurologique. Alors, quand le jeune aborde sa lecture, il ne voit pas le mot comme nous, on le voit. Mm-hmm. Il voit des lettres mélangées. Alors, ce qui arrive, c'est que ça demande un travail colossal que de déchiffrer le texte qu'on lui propose, à tel point qu'il en oublie le sens du texte lorsqu'il a fini de lire ou de décoder sa phrase. Le livre audio, en complémentarité de la lecture, pas seulement que le livre audio, mais vraiment la lecture et le livre audio permet à Thierry de se faire des images dans sa tête, permet aussi d'imprégner son cerveau de l'orthographe des mots et donc d'imprégner sa mémoire d'apprentissage afin de réutiliser par la suite cet apprentissage ou cette mémorisation. Alors Thierry me disait, le livre audio seul, non. Le livre audio accompagné de la lecture papier vient m'aider. Et il a, parce qu'on dit que c'est un outil adapté, livre adapté. Le livre adapté doit répondre à un besoin qui a été au préalable identifié par rapport à une condition neurologique. Mm-hmm. Est-ce qu'il est dyslexique? Est-ce qu'il est dysorthographique? Est-ce qu'il est trouble de déficit d'attention et d'hyperactivité. Tout dépendant du diagnostic fait par un professionnel, soit médecin, soit orthopédagogue, un spécialiste, un orthophoniste, les méthodes d'adaptation ou les outils d'adaptation vont être différents. Alors, il en existe plusieurs. qui sont à même les outils informatiques, mais dans le cas du livre audio, ça devient un appui et surtout l'idée de pouvoir donner aux jeunes l'image du texte.
Exactement.
Et l'émotion du texte, parce qu'on a parlé, lui et moi, hier, et je lui ai demandé, mais la voix de synthèse, parce que la voix de synthèse existe dans... parmi les outils qu'il a à sa disposition.
Oui, oui.
Mais la voix de synthèse, il me dit, c'est trop uniforme.
Oui,
ça ne me permet pas de faire de donner du sens et d'entrer dans un imaginaire. Mm-hmm. Alors, comment on fait pour savoir si un outil d'adaptation est adéquat ou pas? Au préalable, le plan d'intervention. Ensuite, on a l'outil comme tel, en tant que tel, la période de lecture. Et ensuite, c'est l'évaluation. Parce qu'on ne peut pas proposer à tous le même outil d'adaptation. Tout dépendant des besoins, on va aller vers un type d'outil ou un autre. Et comment mesurer l'efficacité? C'est en évaluant l'enfant, donc l'élève. Et l'élève a des comptes rendus de lecture à faire, a des examens à faire. Mm-hmm. Donc, ça fait appel à son apprentissage, à sa capacité de rendre compte de sa lecture, donc sa compréhension du texte. Et aussi à écrire dans son compte-rendu. Donc, est-ce qu'il a fait moins de fautes d'orthographe avec cette stratégie ou s'il a exactement les mêmes résultats?
Donc, et la réponse est que
il a fait
c'est
des
ça,
gains.
Des progrès, c'est ça.
Il a fait des gains considérables et il a de plus en plus confiance en lui quand il doit aller en examen parce qu'il n'a pas accès à ses notes, il n'a pas accès au livre. Il doit faire appel à sa mémoire. Donc, c'est la combinaison de la lecture, de l'écoute qui l'amène
à focusser,
oui.
Mais Lucie, on s'entend que des Thierry et des parents d'enfants comme Thierry en ce moment qui nous écoutent, il y en a beaucoup et ils doivent tout d'un coup avoir un intérêt en se disant mais alors le livre audio, peut-être que ça pourrait aider moi mon enfant ou le voisin ou un enfant de ma famille.
Je viens tout juste de parler au collège à quelqu'un du collège Saint-Paul et ils ont des enfants dyslexiques et ils veulent faire enregistrer tout le programme de lecture de la première à la cinquième secondaire. C'est un contact qui a été fait il y a déjà un certain temps, mais ils sont revenus là et ça va se préciser. Maintenant, il existe ce qu'on appelle le Service québécois du livre adapté.
Oui, c'est ça.
Ce Service québécois du livre adapté propose 15 000 titres.
Oui.
Sur ces 15 000 titres, c'est considérable comme nombre de lectures, il n'y en a que 1 000. Pour les jeunes. Et ça va du 22 pages à du 600 pages. Mmh. Alors, c'est vraiment un échantillon. Ça ne couvre pas tous les programmes de lecture à l'école. Et on sait que le programme de lecture vient installer chez l'apprenant une compétence qui va lui servir, la littératie, qui va lui servir dans toutes les situations de sa vie, dans sa vie d'adulte. Alors, c'est là-dessus qu'on a un effet audio sur le cerveau qui permettra d'améliorer la performance en lecture et en écriture.
Lucie, vous ne pouviez pas arriver avec 1 000 livres à mettre sur la table, mais vous en aviez quelques-uns quand même à me proposer. Par exemple, là, j'ai ceux que vous aviez laissés très gentiment sur mon bureau, dont Les Voyageurs de la Nuit d'Alain Lafont. Ça, c'est un livre qui est disponible.
Qui est disponible.
Ça, c'est du gros bouquin. Et écoutez, j'en ai lu quelques pages et je voudrais dire d'ailleurs à nos auditeurs, les fidèles le savent, en seconde partie d'émission, je lis toujours un large extrait, un extrait de quelques minutes d'un livre dont nous avons parlé. Alors, en seconde partie, je vais lire un extrait de ce livre d'Alain Lafont, Les Voyageurs de la Nuit. Il y a ça, ce petit livre.
Peut-être que je peux compléter.
Oui.
Ce livre est suivi de 2 autres tomes. Alors,
c'est une trilogie
et c'est vraiment un livre qui a reçu d'ailleurs un prix pour sa qualité.
Et puis, il y a le prix Jeunesse des libraires du Québec, finaliste 2016. Ça a été lu aussi.
Oui.
J'aime tellement le titre.
Oui.
Je me doutais tout de suite qu'il s'agissait
d'un Asperger,
oui. Parce que le titre, c'est « Mon frère n'est pas une asperge ».
Oui.
C'est
beau.
C'est fantastique,
voilà.
Oui. Alors ça aussi, je vous en lirai un petit bout en seconde partie, si vous nous le permettez.
Avec plaisir.
Je voudrais aussi, Lucie, et je l'ai déjà évoqué à plusieurs reprises, on a même fait une émission spéciale il y a une semaine ou deux sur le CAEB. Parce que ça va permettre aussi sûrement l'accès à tous ces livres-là, mais d'une façon plus large et pas juste en passant par le SQLA, c'est bien ça?
Oui, mais auparavant, oui, la partie francophone, française, disons, oui, de la littérature est assurée par le SQLA.
D'accord.
Au Québec.
Au Québec, c'est
mais l'INCA faisait à la fois l'anglais et une partie francophone, oui, aussi. Donc, oui, publiait des livres audio français. L'INCA s'est doté il y a environ 2 ans d'une... En fait, a changé sa mission. Elle n'est plus une sorte de médiathèque, mais est devenue un producteur. Et c'est le CA EB qui fait le prêt à tous les individus canadiens d'un bout à l'autre du Canada, d'un océan à l'autre. Cette nouvelle structure, elle date de 2014, elle est toute, ouais, récente, vient réunir les forces de toutes les bibliothèques qui offrent des livres, peu importe la langue, en français ou en anglais, partout au Canada. La partie québécoise, c'est la partie du SQLA. Et ils font partie, eux, de du regroupement des bibliothèques. Maintenant, il y a des différences dans la façon de prêter les livres.
Oui.
En anglais ou au Canada, hors Québec, oui, un professeur peut inscrire ses élèves.
Et il paraît qu'il y en a déjà beaucoup qui sont intéressés.
Oui, c'est
alors,
fabuleux.
Mais on revient à notre sujet.
On le demande aussi, oui, pour le Québec. Et puis là, c'est plus ou moins avancé et l'élève doit continuer à s'inscrire au SQLA, oui, pour avoir accès aux livres adaptés, uh-huh, avec un code d'accès.
Okay.
Maintenant, on sait que la lecture, c'est là aussi pour faire rendre autonomes les jeunes dans toutes les,
oui,
situations.
Oui,
alors,
oui,
c'est,
oui,
une bonne,
oui,
façon, oui, de l'amener à une certaine autonomie, de l'accompagner au tout début,
oui,
mais ensuite de le laisser aller dans ses choix de livres et d'aller chercher les livres dans un catalogue de livres adaptés, catalogue que nous nourrissons à chaque année avec 700, 750
mais oui,
nouveaux livres à se mettre sous la dent, mais pas nécessairement,
non,
tous pour les jeunes.
C'est ça.
Alors, il arrive que nous répondions à des demandes particulières et cette demande a été faite, entre autres, par la maman de Thierry Côté pour quelques,
mais oui,
livres l'an dernier et ils sont revenus cette année. Et c'est parfois avec plus d'une voix, une pièce de théâtre. Vous savez, Dubé, Marcel Dubé,
oui,
est très connu.
Oui, mais oui.
Et il est très souvent au programme d'études avec des lectures. Mais au SQLA, il y a le monde de... Bon, une autre pièce de Marcel Dubé.
Oui, oui.
Mais il n'y a pas nécessairement Florence. Alors, présentement, ah, oui, nous enregistrons Florence avec 3 voix pour lui donner une expérience de lecture qui sera satisfaisante et qui lui donnera peut-être le goût d'aller plus loin.
Mm-hmm.
Pour le moment, Thierry me dit qu'il n'est pas encore amoureux des livres, mais il est déjà très content de pouvoir les comprendre et d'en rendre compte ensuite et de faire les examens et de réussir ses examens avec de très bonnes notes.
Lucie Robida, c'est du grand bonheur de vous entendre parler de ce sujet qui vous passionne, ça se sent bien. Et on espère bien que tous les jeunes, comme Thierry, auront un peu plus accès encore et auront aussi la curiosité d'aller voir et leurs parents. Et j'espère que vous comme moi et cette émission-là, on aura peut-être donné envie aux gens d'aller s'informer sur les livres audio, d'en faire entendre à leurs enfants. Et puis, lisez à vos enfants le soir.
Oui, c'est une des stratégies de lire, d'avoir
oui,
un lecteur à côté de nous. C'est ce que le livre audio adapté permet, un lecteur qui l'accompagne.
Merci beaucoup, Lucie Robida, de chez Vues et Voix, directrice sonore de Vues et Voix. Merci beaucoup, Lucie.
Merci, Clotilde, et bonne lecture à tout le monde.
Des livres pleins les oreilles, seconde partie. Et c'est le retour du Saint Graal. Non, pardon, du Saint Gérard. Gérard Saint-Denis, comment ça va, Gérard?
Ça va bien. Ça va très bien.
Bon.
Mais je dois vous dire, madame, que vous m'avez un peu ébranlé en me forçant de me rappeler des livres de jeunesse. C'est incroyable. J'ai revu des affaires que j'avais faites dans ma vie. Ça se peut pas.
Alors, comme.
Je vais vous dire une chose.
Oui.
Dans le temps, nous autres, on avait des lectures, les jeunes, oui, on avait des lectures. Il y avait l'auteur Earl Jones, qui a écrit une série de livres des Bigelby, I-G-G-L-E-S. C'était des romans d'espionnage, parce qu'on venait, on était encore à la fin de la guerre, on venait de sortir de la fin de la guerre.
Mais oui, mais oui.
Fait qu'on parlait beaucoup d'espionnage. Et ça, ça a meublé beaucoup, beaucoup, beaucoup ma jeunesse. C'est des livres d'à peu près 180, 190 pages. Et ça fonctionnait très, très bien. Après ça, il y a eu les fameux extraits. Cette série de livres à 32 pages qu'on attendait le mardi au dépanneur.
L'Express.
Le gars venait les porter. Il y avait okay. Express. Il y avait Guy Verchet. Comment ça s'appelait? Les aventures de Guy Verchère, Albert Brien. C'était des petits livres de 32 pages qu'on lisait. Et en même temps, on avait aussi Spirou, qui était
ah ben oui.
En 1937. Moi, je suis né en 38, et Spirou est né aussi en 38. Spirou. Donc, dans les écoles, ceux qui étaient abonnés recevaient une fois par mois le Spirou. Et c'était un événement.
Là. Ah ben
c'était
oui!
Et moi, j'ai eu l'avantage, pour les gens qui ont 65 ans et plus, vont se rappeler de la librairie Tranquille, avec M. Henri Tranquille, qui était un peu le père du livre pendant 40 ans, 50 ans.
Ah
et
oui?
Moi, quand j'avais, en 1950, j'avais 12 ans, mon grand-père, je restais à Verdun, on avait pris l'autobus, le tramway, on s'était rendu sur la rue Sainte-Catherine chez M. Tranquille.
C'était où,
père,
c'était?
Mon grand-père, qui s'occupait beaucoup de livres, mm-hmm. parce qu'il en avait rapporté beaucoup d'Europe, parce qu'il avait voyagé en bateau énormément pour ses ailes, parce qu'il était acheteur de soie. Il avait apporté deux livres à M. Tranquille qui voulait avoir, puis ils ont jasé. Puis lui, il m'avait regardé, il m'avait dit, « Mon jeune, tu viendras me revoir. » Et je suis retourné le voir. Je suis retourné le voir quand il était à la rue Sainte-Catherine. Je suis retourné le voir quand il était à la rue Saint-Denis. Mais je ne l'ai pas vu après ça quand il a fini sa rue Mont-Royal, parce que j'étais plus loin.
Ah.
Mais il y avait quand même une effervescence chez les jeunes. Mm-hmm. On avait hâte de lire. On était pris. Et j'invite nos jeunes à continuer là-dedans. Parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait si avec les nouvelles technologies qu'on a aujourd'hui. Tu sais, je me pose oui, vraiment la question.
On en a parlé beaucoup dans la première partie de l'émission. Quand ça va être diffusé, vous pourrez entendre ça.
Oui.
Et vous allez voir que finalement, il y a beaucoup de choses qui se font encore pour les jeunes maintenant. Et je me demande même s'il n'y a pas un retour à la lecture et aux livres audio, tout ça. Moi, je voudrais que vous nous parliez de livres relativement récents que nos jeunes peuvent trouver en ce moment.
Il y a trois livres. Moi, je me suis accroché à trois livres. Là,
d'accord.
Sur le thème jeunesse. J'ai de Bondou, d'Anne-Laure Bondou. Tant que nous sommes en vivant.
Oui, tant que nous sommes vivants, oui.
C'est chez Gallimard. On trouve ça au SQLA. C'est un très bon livre jeunesse. C'est un livre intéressant, dynamique. C'est pour les 13 ans et plus.
Mm-hmm.
Et ça bouge. Je veux dire, il y a de l'action, mais c'est quand même... Ça s'adresse vraiment à un public jeune, mais c'est quand même... C'est très bien écrit. C'est facile
oui.
à lire.
Mm-hmm.
C'est pas trop long, puis ça va très, très bien. Ça, c'est un volet qui est fort intéressant. Le deuxième livre que j'ai, c'est celui de Marie...
Marnie Bates.
B-A-T-E-S.
Oui.
Oui. Miss Malaise. Ça, c'est bon. Moi, j'ai ri. Parce que... Lire un livre jeunesse à 78 ans, c'est pas pareil. Hein?
Mais oui, c'est le fun.
Non, mais on a du plaisir quand même. Parce
ben oui.
Je pense qu'on est. Je suis un peu revenu à l'âge de l'imagination.
Mais oui, mais non, mais de toute façon, vous en avez toujours de l'imagination, Gérard.
C'est bien important. Et surtout quand on fait de la lecture sonore, moi, je dis ça aux gens. Sonore, c'est qu'il faut pas oublier qu'on est quand même très, très... On se ferme les yeux, fait qu'on embarque
oui.
dans l'histoire.
Bon.
Mieux que quand on lit un livre ordinaire.
Bon. Qu'est-ce qui lui arrive à cette Miss Malaise, là? Est-ce que c'est le genre de bonne femme qui met les pieds dans les plats?
C'est des aventures. Je veux pas donner le scoop. Parce que je le donne, ce n'est pas intéressant. Mais je le dis, ils peuvent aller le chercher au SQLA.
Oui.
Il est disponible. Il n'est pas long à lire.
OK.
Il y a des incidents, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent.
Ouais.
C'est humoristique.
Bon.
Et en même temps, c'est un petit peu, pas moralisateur, mais c'est quand même, comment je dirais ça, donc, c'est vivant et ça s'inscrit bien pour des jeunes.
D'accord.
Ça s'inscrit très, très bien.
D'accord. Et ça, c'est bien.
C'est mon choix, mon grand choix.
D'accord.
Oui, le troisième, c'est le Dufresne,
oui.
Réa Dufresne. un clic de trop, c'est bon, c'est d'imaginer que sa vie est sur le point de culbuter. Mm-hmm. Et c'est là que ça culbute. Et c'est quand ça culbute qu'on s'aperçoit que, tout à coup qu'on peut être heureux et malheureux, mais la fin est quand même, comment je dirais ça, la fin est pas ce qu'on s'attend, mais elle est bien construite.
Bon, mais enfin, bon, on peut quand même dire un clic de trop. De toute façon, on s'entend qu'on est dans un sujet moderne, dans les réseaux sociaux, et qu'il y a des fois...
41 de lecture, c'est pas long. Là.
Non, c'est ça.
Ça se lit très, très bien.
Voilà. Et qu'il y a donc...
Le dernier, je peux pas faire autrement, c'est Le Grand Monde de Fournier. C'est le livre, à mon avis, le plus inspirant que tous les jeunes devraient lire. Moi, je l'ai lu, j'avais 13-14 ans. Je l'ai relu à 70 ans. Mmh. C'est fantastique.
C'est vrai. Hein?
C'est Fournier, ce livre-là, il est... comment je dirais ça, non? C'est dynamique, c'est moderne, même si ça a été écrit en 1913, c'est pas n'importe quoi, c'est écrit en 1913. Sauf que c'est tout l'aspect d'amitié. Mais c'est poétique, c'est puissant, c'est aventurier. Il y a tout là-dedans, il y a juste 300 pages pour ça. C'est pas tellement long à lire.
Non, mais c'est vraiment très beau.
Tous nos lecteurs, tous ceux qui nous écoutent, là, d'aller chercher Le Grand Monde, il est disponible à Grande Bibliothèque, il est disponible chez, je veux dire, où est-ce qu'il est là, ou chez Alinka, il est disponible, il est accessible.
D'accord.
C'est un livre qui se lit très bien. Quand vous allez commencer, vous ne voudrez plus le lâcher.
Ah non, c'est ça. Oh, mais moi, j'ai des images aussi qui me viennent parce qu'il a été tourné, hein, ce film-là.
Un film en 2000.
C'est ça, et c'était Malkovich qui faisait faisait le et moi j'ai l'image juste ça dans la neige, dans la boîte, alors qu'il porte le petit, hein, parce que bon, on n'en dira pas plus, mais c'est tellement magnifique, vraiment.
C'est beau, puis la lecture nous fait vivre un film. Dans le fond, quand on a regardé le film, j'avais l'impression que le film il allait pas plus loin que la lecture.
Non, c'est vrai. Hein.
L'écriture est tellement poétique, tellement vivante qu'on a l'impression de voir un film quand on lit.
C'est
merveilleux. Je pense que tous ceux qui nous écoutent ont intérêt à lire Le Grand Monde de Fournier.
Exactement. Et écoutez, et pendant qu'on se parle, moi, j'essaie de trouver désespérément un extrait. Ah, j'en ai un court extrait. J'en ai un court extrait, parce que vous le savez peut-être maintenant, parce qu'évidemment vous écoutez l'émission à chaque semaine, Gérard, alors vous savez que maintenant je lis, dans la seconde partie, je lis des extraits de livres dont il est question à l'émission.
D'accord.
Hein? Alors,
vous avez trouvé votre extrait, là?
Ben, j'en ai trouvé un, là.
OK.
J'en ai trouvé un, ben, un court, mais quand même. Alors, je vais donc me faire le plaisir de lire un extrait du Grand Maulne et puis aussi un extrait ou deux de livres dont il a été question pour les jeunes en première partie de cette émission, des livres pleins les oreilles. Gérard, c'est toujours bonheur de vous entendre.
On se reparle.
On se reparle.
Tous vos gens.
Je vous laisse à vos radis et à vos salades.
Un bel automne.
Ah oui, à vous aussi. Je vous embrasse fort, Gérard.
Au plaisir.
Merci, au revoir.
Bye-bye.
Alors, quelques extraits de livres. Et puis, tiens, puisqu'on vient de parler du Grand Maulne avec l'ami Gérard Saint-Denis, commençons avec le Grand Maulne. Honnêtement, c'était pas prévu. Bon, en tout cas, ce n'était pas dans ma feuille de route. Alors, vite, je suis allée faire des petites recherches sur mon iPad. Je trouve ce court extrait qui s'intitule « Le pensionnaire ». Il arriva chez nous un dimanche de novembre 1880. Je continue à dire « chez nous », bien que la maison ne nous appartienne plus. Nous avons quitté le pays depuis bientôt 15 ans et nous n'y reviendrons certainement jamais. Nous habitions les bâtiments du cours supérieur de Sainte-Agathe. Mon père, que j'appelais M. Sorel, comme les autres élèves, y dirigeait à la fois le cours supérieur où l'on préparait le brevet d'instituteur et le cours moyen. Ma mère faisait la petite classe. Une longue maison rouge avec 5 portes vitrées sous des vignes vierges à l'extrémité du bourg, une cour immense avec préaux et buanderies qui ouvraient en avant sur le village par un grand portail. Sur le côté nord, la route, où donnait une petite grille et qui menait vers la gare, à 3 kilomètres. Au sud et par derrière, des champs, des jardins et des prés qui rejoignaient les faubourgs. Tel est le plan sommaire de cette demeure où s'écoulèrent les jours les plus tourmentés et les plus chers de ma vie, demeure d'où partir et où revinrent se briser, comme des vagues sur un rocher désert, nos aventures. Oh, c'est du Alain Fournier, mes amis. Hein. Quelle écriture! Merci à Gérard de nous avoir redonné envie de lire ce livre-là, Le Grand Môle d'Alain Fournier. Moi, je vais m'y replonger, c'est sûr. Mon frère n'est pas une asperge, c'est signé Lynn Vanier. Et en quatrième de couverture, je lis sur ce roman qui est un petit roman jeunesse qui a obtenu le prix Jeunesse des libraires du Québec. Non, en fait, il était finaliste au prix Jeunesse des libraires du Québec. Un livre formidable. Mon frère n'est pas une asperge. Et on voit tout de suite à quoi ça fait référence. J'imagine que je devrais commencer par me présenter. Ça nous fera un début. Commencer par le début, c'est bien. Alors voilà, je m'appelle Ludovic. J'aime les nombres premiers, la suite de Fibonacci, le vert, l'orange, le blanc et tout ce qui est bien rangé. J'ai peur des gens gentils, j'ai aussi peur des méchants et j'ai peur de confondre les deux. Beaucoup pensent que je suis borné, que je devrais m'amuser avec les autres au lieu de m'enfoncer dans mon armure. Sauf que m'amuser avec les autres, je ne peux pas. Et sortir de mon armure, je ne sais pas ce que ça veut dire. D'ailleurs, je déteste toutes les expressions de ce genre. J'ai également horreur de la poésie et de la fiction. Il y a tellement de choses vraies à apprendre. Pourquoi perdre du temps à lire des mensonges? Justement, ce livre que j'écris avec mon frère n'est pas un roman. C'est une histoire vraie. La mienne. Celle de ma vie avec ses bons moments, ses mauvais jours. Et le syndrome d'Asperger. Ça, c'est une musique de Michel Legrand, si je ne m'abuse, et ça s'appelle « Un été 42 ». C'était la musique d'un film assez formidable. Merci à Jean-Sébastien pour cette jolie couverture musicale qu'il nous offre là. Voici un autre livre. Ce livre est dédié à tous ceux qui rêvent d'écrire et à ceux qui choisissent de le faire. Celui qui a écrit cette préface, c'est aussi l'auteur Alain Lafont. Et il y a en dessous une citation d'Antoine de Saint-Exupéry, voilà. « Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. » Et un très court extrait, c'est le tout début de ce livre assez consistant, assez gros, hein, 500 pages, « Les voyageurs de la nuit » d'Alain Lafont, collection Dreamwalkers, collection jeunesse. Il faisait nuit. Le ciel noir, sans lune, sans étoiles, recouvrait tout. Dans la ruelle, la fillette courait depuis une éternité sans réussir à trouver de cachette. C'était étrange d'ailleurs, tous ces cul-de-sac, ces portes en acier verrouillées et ces fenêtres condamnées. Les quelques lumières qui lui permettaient de se diriger sans heurter les murs provenaient de lampadaires désuets, dont les ampoules jaunâtres jetaient une lueur glauque, rendant la scène encore plus sinistre. C'est comme ça que ça commence, « Les voyageurs de la nuit » d'Alain Lafont. Alors, vers quoi vais-je maintenant et vers où vis-je? Peut-être vers la bande-annonce de la semaine prochaine. Tiens, on va y aller avec ça pour le moment. La semaine prochaine, nous allons recevoir, si tout va bien, Vincent Marissal. Je dis bien si tout va bien parce que vous savez, avec la politique, on ne sait jamais. Allez savoir qu'il arrive un truc incroyable. Je n'ose pas dire quoi. On pense à plein de choses, mais vous savez, il y a tellement d'événements politiques, des gens qui décrochent tout d'un coup, par exemple, et qui disent « Tiens, je veux plus, il faut que je m'occupe de ma famille » ou « Il faut que je m'occupe de mon ex-famille », par exemple, voyez-vous, à tout hasard, comme ça. Alors, mais pour l'instant, Vincent Marissal est attendu en studio la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce qu'il a écrit un bouquin qui s'appelle « Nos amis, les politiciens ». Déjà, rien que le titre,
ça vaut le coup de lui poser au moins 4 ou 5 questions. J'avais un très très court extrait à vous proposer de ce livre de monsieur Marissal. Je suis en train de me perdre. La page 64, merci mon ami, quand je vous dis qu'il est absolument... Je ne pourrais pas me passer de lui. Alors voici par exemple M. Marissal là, qui nous parle de Denis Coderre. Pour Denis Coderre, garder la forme et un tour de taille santé a toujours été plus ardu. Grand amateur de hockey et de football, il a d'ailleurs déjà été entraîneur de l'équipe de son fils. Il pratique plus les sports sur Twitter que sur les patinoires ou les terrains synthétiques. Faut dire que Denis Coderre n'a pas vraiment le temps de faire autre chose que ce qui le passionne depuis plus de 30 ans. Là, politique. Lorsqu'il était député fédéral, surtout lorsqu'il occupait le poste de lieutenant politique au Québec, Denis Coderre pouvait parcourir 50 et même 60 000 kilomètres par année sur les routes de la province dans son gros Ford Explorer qu'il avait baptisé Kyoto. Un clin d'œil à son collègue et ancien chef, Stéphane Dion. Cocktail de financement au Saguenay, coup de main dans une circonscription de Québec, discours en Abitibi, détour par les cantons de l'Est ou les Bois-Francs pour épauler un candidat local, arrêt à Drummondville pour un congrès régional du Parti libéral, retour à Montréal, à la maison familiale de Montréal-Nord, avant de reprendre la route vers Ottawa le lendemain à l'aube. Denis, c'est une machine, m'avait dit un jour un de ses collègues députés. On peut critiquer ses méthodes un peu rudes et le fait qu'il prend vraiment beaucoup de place, mais personne ne peut nier que ce gars-là travaille plus fort que n'importe qui aux communes. Voilà le genre d'anecdotes qu'on retrouve dans ce livre délicieux, Nos amis les politiciens, dont Vincent Marissal viendra nous parler la semaine prochaine. Des nouvelles et des livres. Avez-vous entendu parler, mais oui, forcément, d'Elena Ferrante? Elena Ferrante, c'est un nom d'emprunt. C'est le nom de cette femme qui soudain a fait un tabac en 2012 avec sa trilogie « L'amie prodigieuse ». Et là, ne voilà-t-il pas qu'un journaliste italien affirme avoir découvert, grâce à ses revenus, l'identité d'Elena Ferrante, l'écrivaine à succès citée pour le prix Nobel de littérature quand même, mais qui garde jalousement son anonymat. Ce monsieur est formel, point de napolitaine ou de mère couturière, comme l'a affirmé l'écrivaine dans « Frantumaglia ». Elena Ferrante est Anita Raja, une traductrice romaine née en 1953, fille d'un magistrat napolitain et d'une professeure d'allemand d'origine polonaise. Et pour parvenir à cette conclusion, il a analysé les flux financiers d'Edizioni, la petite maison d'édition romaine qui publie les romans d'Elena Ferrante et à laquelle collabore déjà Anita Raja. Selon lui, les revenus de la maison d'édition ont augmenté de 65% en 2014, année où les ouvrages d'Elena Ferrante sont devenus des best-sellers en anglais, et de 150% l'an passé. Et des hausses du même ordre apparaissent dans les revenus d'Anita Raja. Alors plusieurs voix se sont élevées depuis la publication de l'enquête de M. Gatti, c'est son nom, dimanche. Il y a eu, écoutez, aussi bien en Allemagne qu'en Italie, que dans plein de pays européens, on a voulu dénoncer cette atteinte à ce qu'on considère être la vie privée de l'auteur. M. Gatti a dit lundi sur la BBC « Je l'ai fait parce que je crois qu'elle est une figure très publique et quand les lecteurs achètent des millions de livres, je pense qu'ils acquièrent un droit de savoir quelque chose sur la personne qui a créé ces livres. » Voici ce que Marc Cassivi, un des tout premiers à avoir fait l'émission « Des livres pleins les oreilles » quand ça s'appelait encore « Un livre découvert », voici ce qu'il écrit sur le sujet. « Madame Ferrante disait récemment, au sujet de son désir de rester dans l'anonymat, « Grâce à cette décision, j'ai acquis un espace qui m'est propre, qui est libre et où je me sens active et présente. De renoncer à mon anonymat serait très douloureux. » Elle confiait ça récemment au magazine Vanity Fair. « Je pense que les livres, une fois qu'ils sont écrits, n'ont pas besoin de leurs auteurs. S'ils ont quelque chose à dire, ils trouveront, tôt ou tard, des lecteurs. » Et c'était ce qu'elle avait déclaré quelque temps après la sortie de son premier roman en 1992. On aurait compris, dit Cassivi, la démarche de Gatti, si Elena Ferrante était une figure de proue de la Camorra napolitaine, une chef d'entreprise soupçonnée de malversation ou encore une candidate à une élection présidentielle qui fait de l'évitement fiscal depuis 18 ans. Mais là, elle est auteure de romans dont le seul souhait est de conserver son anonymat. Elle n'est pas une criminelle, a rappelé hier, comme s'il était nécessaire de le faire, son éditeur, Sandro Ferri, au journal La Repubblica. Claudio Gatti s'est défendu en rétorquant qu'Elena Ferrante n'était pas qui elle prétendait être et avait inventé des pans entiers de l'histoire personnelle de son personnage romanesque. « No shit, Sherlock », de lui dire « Monsieur Cassivi », comme on dit à Pompéi. « No shit, Sherlock », s'il fallait enquêter sur la véracité biographique de tous les personnages de fiction, on en aurait, disons, pour quelques heures. Le personnage d'Elena Ferrante n'est pas sans paradoxe, il reste désolant de constater, dit Monsieur Cassivi, qu'en 2016, on accorde encore si peu d'égard à la vie privée des artistes par les médias. Sans le moindre scrupule, on se permet de révéler des éléments de l'intimité des uns et des autres, l'homosexualité d'un comédien, l'identité d'une auteure, la rupture d'un couple, afin de satisfaire une soif malsaine de ragot. Ce n'est pas parce qu'un artiste, dit Cassivi, connaît du succès qu'il appartient à son public, ni du reste au domaine public. Toute personne, qu'elle soit ou non une auteure mondialement connue, a droit au respect de sa vie privée. Le Québec, conclut-il, est à peu près sans nouvelles de Région du Charme depuis qu'il a publié « La vallée des avalés » chez Gallimard à 25 ans. Il a décidé de créer une œuvre en marge de la vie publique, et bien grand bien lui en fasse. Il n'y aurait pas une enquête exhaustive à mener pour révéler des détails de sa vie privée. Et heureusement, certains comprennent et respectent encore, en cette ère du narcissisme à tout craint et du tout dévoilé, le charme de la retenue et de la discrétion, du moins. Pour l'instant, conclut Cassivi. Et vous aurez compris que si j'ai lu de larges extraits de ce papier, c'est parce que j'abonde complètement. Pourquoi rajouter quoi que ce soit ? En rafale maintenant, j'ai envie de vous parler. Vous savez qu'en ce moment, ça fait grand bruit. On parle beaucoup de José Blanchette et du livre qu'elle a rédigé, qui sera certainement enregistré d'ailleurs chez Vues et Voix ou ailleurs et qui vous sera proposé. Et je sais que Madame Blanchette viendra certainement à l'émission. Je sais d'ailleurs qu'au moment où est diffusée l'émission des Livres Pleins les Oreilles, vous aurez peut-être déjà eu l'occasion d'entendre Madame Blanchette au micro de Marianne Paquette dans l'émission. C'est bon pour la santé, du moins je vous le souhaite, sinon... Allez sur notre site, hein, canalem.vusezvoix.com, pour aller réécouter cette émission-là. C'est bon pour la santé, avec Madame Blanchette. Je me suis dit, tiens, quand j'ai vu dans les nouveautés qu'il y avait les aliments contre le cancer de Richard Béliveau, je me suis dit, oh, pourquoi pas en parler. Alors, vous le savez, hein, depuis 10 ans, la compréhension du cancer a grandement évolué. C'est du moins ce que constate Richard Béliveau. En 2005, il se souvient... On commençait à voir le cancer comme une maladie chronique et ça s'est confirmé de façon spectaculaire. Et c'est ce qu'il faut changer dans la tête des gens, dit M. Béliveau. Les gens pensent qu'ils attrapent un cancer à 65 ans. Mais ce n'est pas le cas. Le cancer qu'ils ont dans le côlon, le sein ou la prostate à 65 ans, il a commencé à pousser quand ils avaient 18, 20 ans ou 22 ans. Pour limiter les risques que les microtumeurs, que 100% des gens auraient dès la sortie de l'adolescence, évoluent en cancer cliniquement déclaré, il faut cultiver un bon environnement dans son corps. Et c'est là que l'hygiène de vie joue, conclut Richard Béliveau. Alors, quelques aliments chimio-préventifs, d'après lui, l'huile d'olive, et là j'ai l'impression de faire une Serge Hamelin de moi-même, le café, donc, l'huile d'olive... Les fibres, les pêches, les nectarines et la grenade. Le café, je dois dire que ça m'a surpris, mais lui, il est convaincu que un café par jour, selon une étude en tout cas, c'est ce que l'étude révèle, eh bien, un café par jour, 40% moins de risque d'être touché par un cancer du foie. Le café aurait aussi un effet protecteur contre le cancer du sein. Bref, si vous voulez en savoir plus sur ces aliments qui pourraient non pas nous guérir, mais peut-être nous protéger, lisez ce livre de Richard Béliveau. Il existe maintenant en version audio, « Les aliments contre le cancer ». Oh, voici un livre, je dirais, à la sensualité exacerbée. Ça s'appelle « Deux brûle-parfums » d'Eileen Chang. Pourquoi « Deux brûle-parfums » Eh bien, parce que ce sont des histoires, notamment celle de cette jeune femme qui sollicite la protection d'une tante riche mondaine mise au banc de la famille. Cette tante qui recèle, en effet, tous les filtres de l'intelligence pratique de la haute société chinoise et qui voit en Wei Long l'appât qu'elle n'espérait plus. Vous voyez de quoi je veux parler. Et puis il y a le second brûle-parfum. Nous sommes avec Roger Hampton, professeur à South China University, qui est très amoureux de la très éthérée Suzy, une jeune fille idéale qui, par grand mystère, ignore tous les désirs d'un homme normalement constitué. Et au soir de leur noce, eh bien, elle s'enfuit du lit conjugal, comme une volaille décapitée, nous dit-on. Alors, on pourrait penser que c'est un petit peu harlequin. Pas du tout. Avec Madame Eileen Chang, laissez-moi vous dire que nous sommes dans la sensualité tellement bien décrite. Alors, deux brûle-parfums d'Eileen Chang. Voilà un livre que je vais aller me procurer, Le vin snob de Jacques Auron. Monsieur Auron qui nous dit « Vous aurez compris que si j'ai écrit ce livre gentiment pamphlétaire, c'est en pensant à celles et ceux qui sont souvent désarçonnés devant leur verre de vin. Non pas qu'ils appréhendent le geste de se le porter au nez puis à la bouche, mais ils ont peur d'exposer une ignorance imaginaire entretenue par des individus qui se plaisent à compliquer pour rien le jus de la treille et son environnement. Alors les sujets abordés, le $20, la dictature des notes, bio et nature, buveur d'étiquettes, cépage et caricature, le vin des stars, les jouets du vin. Enfin bref, small n'est pas toujours beautiful. Importation privée, œnologue vedette, tout y passe. Sommelier ou snobelier et bien d'autres. Alors, le vin snob de Jacques Auron, O-R-H-O-N, c'est sur cette suggestion vinicole que je vous laisse pour cette semaine en remerciant mes invités Bernard Tremblay, Lucie Robida et Gérard Saint-Denis. Merci à Jean-Sébastien Laliberté, à la technique et merci à Anne-Laure Janson qui book tout ce beau monde ici Clotilde Seille. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Salut !